magazine mensuel de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons FRANF, le magazine des radios associatives du Nord de la France, un 21e numéro consacré aux cultures en région, animé par Agathe Doisy de RPL à Lambersart et Joris Nansens de Radio Club à Wallers à Ramberg.
Et animé aussi par Patricia Bassama de Radio Campus à Lille.
La région des Hauts-de-France a connu plusieurs vagues d'immigration durant les années d'exploitation minière. Depuis les années 1950, elle est devenue terre d'accueil et de diversité. Une diversité culturelle qui est encore présente aujourd'hui. Nous allons nous demander comment les vagues d'immigration se sont intégrées dans la culture régionale et comment ces cultures ont influencé notre politique culturelle régionale.
Pour en parler, l'invité de ce magazine est Thomas Yagoubi, pianiste et compositeur français né à Lens, d'une mère polonaise et d'un père algérien. Bonjour Omar.
Bonjour, bonjour à tous.
Avant de découvrir votre parcours, Tristan et Aurélien de RPL sont allés interviewer des passants pour leur demander ce qu'est l'immigration.
L'immigration, ce sont des personnes venant de pays étrangers qui viennent s'installer en France.
L'immigration, c'est l'ouverture sur le monde, la rencontre entre les cultures. C'est une richesse pour tous les pays, mais c'est aussi vecteur de plusieurs problématiques.
L'aide aux démunis, l'aide aux réfugiés de guerre, aux réfugiés des famines, du changement climatique.
L'immigration, ben j'en suis un. Je viens d'Algérie, je suis venu à l'âge de 7 ans, j'ai fait toutes mes études et je vis ici.
Dans la région, en quoi est-ce que les vagues d'immigration qu'on a pu connaître ont influencé la culture régionale ?
Je pense que ça amène des cultures différentes, genre par la musique, même la nourriture.
Il y a eu plusieurs vagues d'immigration dans le Nord-Pas-de-Calais, les Polonais et les Italiens notamment avec les mines il y a 150-200 ans. Et plus récemment, l'immigration maghrébine également.
Bah, cette immigration, elle a servi à construire la France, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Il fallait bien de la main-d'œuvre étrangère.
Je pense que de toute façon, on est dans une société multiculturelle et que chacune des origines des gens ont pu influencer où on en est aujourd'hui.
Parlons FRANF,
le magazine mensuel de la FRANF,
la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Parlons FRANF,
le magazine made in FRANF.
Omar Yagoubi, vous êtes l'invité de ce nouveau Parlons FRANF consacré aux cultures en région. À 16 ans, vous donnez votre premier récital et vous parcourez la France à travers le classique, le jazz, le théâtre. Vous avez reçu la récompense du meilleur soliste aux Victoires de la musique. L'une de vos œuvres les plus connues est Stabat Mater. En 2010, votre création, La Valse de la Sensée, a été choisie par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais pour représenter notre région. Alors, vous êtes français d'origine polonaise et algérienne. Qu'est-ce que l'immigration pour vous ?
Oh ben pour moi, l'immigration, c'est une vaste architecture humaine. On parle d'émigration ou d'immigration, mais en réalité, pour moi, c'est avant tout un principe de mélange. Le mélange en tout genre, favorisé notamment par la facilité des voyages.
On parle d'intégration, d'assimilation également. Comment un immigré s'intègre dans notre société ?
Alors déjà, je préférerais le terme accueillant, accueilli. Intégration, quelque part, me gêne. Je ne sais pas pourquoi, probablement à cause des mathématiques, les calculs intégrales. Le terme accueilli, être accueilli par un pays, être accueilli dans une famille, être accueillant, voire bienveillant, qui est un terme à la mode, me semble plus adapté à la situation actuelle.
Et alors, comment un immigré est accueilli dans notre pays ?
De différentes manières. Vous avez la manière sombre qu'on a pu entendre, c'est-à-dire soi-disant des problèmes que ça peut supposer, et de manière en général positive, puisque si on regarde le cas du XXe siècle, que je connais particulièrement bien, il n'y a évidemment pas que la problématique des mines qui est en jeu. Il y a toute la problématique des reconstructions de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, où la France étant exsangue, je dis bien exsangue, et d'hommes, qui étaient tous morts, notamment à la Première Guerre mondiale, et à la Seconde, les bâtiments qui ne tenaient plus debout. Pour mémoire, 90% des mines en 1918 avaient été détruites, On avait donc besoin, naturellement, de gens qui venaient reconstruire la France. Personnellement, je peux vous dire, je sais ce que je dois à la France, d'accord ? Je sais ce que je dois à la France. Je lui dois ma langue, je lui dois mon éducation, je lui dois un magnifique style de vie que j'adore, mais je souhaite, et pour tous ceux qui nous entendent, que la France n'oublie pas ce qu'elle doit aux autres.
Omar Yagoubi, revenons à votre histoire. Est-ce qu'on peut dire que L'indigène inattendu est un livre qui retrace l'histoire de votre grand-père, Djelloul Yagoubi, à travers l'immigration ?
Le cas de mon grand-père est une singularité extraordinaire. Je passais comme 18 mois de ma vie à retracer son parcours. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, si on roule encore sur l'autoroute à l'heure 2017, le tronçon de l'île à Carvin, ce sont les entreprises Yagoubi, avec à la tête mon grand-père, qui l'a construite, entre autres. Il y a eu énormément de choses, des chantiers gigantesques à Arnes conjointement les SNCF et les mines. Également des routes qui existent encore en Algérie. Enfin, il a eu une activité extraordinaire. Bon, le financement de la mosquée de Paris en 1935, inauguré en 1937. Un type hors norme. Donc, si on parle de mon grand-père, je ne crois pas qu'on peut donner une. Ce n'est pas un cas général. C'est réellement une très, très belle exception. On pourrait appeler ça une French success story. Une grande aventure avec beaucoup de succès qui était due, alors là, pour le coup, typiquement à la Première Guerre mondiale, puisque mon grand-père est arrivé comme tirailleur algérien en 1914. Donc pour combattre pour la France, alors que lui-même était indigène, c'est-à-dire, en clair, français pas entièrement à part, était français à moitié, quoi. Tous ces gens, normalement, sont repartis en 1918, une fois le boulot fait. Quelques-uns, dont mon grand-père, sont restés, et lui, en l'occurrence, a fait un travail considérable, dont on parle encore maintenant à l'université en 2017.
Alors, comment avez-vous été bercé, vous, entre la culture française, polonaise et algérienne ? Et avec le modèle d'intégration sur lequel se construit notre pays, n'avez-vous pas dû faire un choix et mettre de côté votre héritage polonais ou vos origines algériennes ?
Alors, pas du tout, dans la mesure où, comme tous les enfants, j'ai eu la prescience de la solution très jeune. Très jeune, les enfants confrontés à des situations ubuesques, en tout cas pour le moins paradoxales, ce qui était mon cas, puisque avec... Né à Lens en 1957, c'est en pleine guerre d'Algérie en plus, d'un père algérien qui ne m'a pas reconnu tout de suite d'ailleurs. Je ne m'appelais pas Omar Yagoubi tout de suite, je me suis appelé au départ Michel Jean-Pierre Zarzicki pendant 3 ans de ma vie. C'était drôle quand même. J'ai appris ça bien plus tard, ça n'a aucune espèce d'importance, mais enfin pour moi ça en a quand même une. Et d'une mère polonaise, donc catholique, bercée... Bercé par la Pologne, ma babcia n'a jamais su parler français. Par exemple, quand on parle d'intégration, c'est drôle. Ma babcia, qui est morte quand même à 99 ans, en 1999, donc née en 1900, à elle toute seule, et l'histoire vivante de l'immigration polonaise. Moi, je l'ai fait beaucoup parler, parce que vous savez, dans les familles, il y a toujours des gens qui sont intéressés par l'histoire de leur grand-père. Et ils font parler leur grand-père, leur grand-mère, etc. Bon, moi, je suis de cela. J'ai une espèce d'archiviste. Et c'est drôle de savoir que ma babtia, Elena Zarzicki, n'a jamais su parler correctement français. Et pour cause, il n'y avait que des ghettos polonais, le boucher était polonais, on faisait du pain polonais. La première église polonaise, c'était à Ouani en 1920, je crois. Enfin bref, vous voyez.
Oui, mais aujourd'hui, vous vous sentez plus fils d'une Polonaise ou fils d'un Algérien ?
Alors, je vais être très clair là-dessus. Très, très clair. Moi, je me sens humain. Humain. J'insiste. Je ne fais pas partie de la communauté des hommes. Je fais partie de la communauté des humains. Alors, si on peut parler à loisir. La notion, par exemple, de racisme, pour moi, est une notion, mais alors complètement obsolète. Ça n'existe pas. On peut ne pas aimer son prochain, mais on ne peut pas être raciste, puisqu'on fait partie de la race humaine. Donc moi, je me définis comme humain, avec un sang qui est O positif. Ça me suffit amplement comme définition. Vous savez, dans mon cas, je suis obligé de regarder toujours le plus petit dénominateur commun à tout le monde. Votre sang est rouge, on est bien d'accord. S'il était vert, ça se saurait. Voilà. Donc, à partir de là, pour moi, ça, ce sont des bases réellement solides.
Entre le 19e et le 20e siècle, la France a été touchée par plusieurs vagues d'immigration, ce qui lui a permis de se construire ce visage contemporain. Notre région des Hauts-de-France a également été touchée par ces flux migratoires. Ces hommes, ces femmes font aujourd'hui partie de l'histoire de notre région. Ils ont contribué à sa construction en travaillant sur le bassin minier de Lens, dans l'ancien pôle roubaisien de l'industrie lainière, dans la sidérurgie valenciennoise ou encore dans les champs de houblon et de betteraves, du Cambrésis à la métropole Lille-Roubaix-Tourcoing. Revenons sur l'histoire de cette immigration en Haute-France avec Monique Van Lanker. Elle est secrétaire générale du CEFIR, une association qui participe depuis 1975 au Vivre Ensemble à Dunkerque et dans la région.
La première vague qui est la plus ancienne, si je ne me trompe, ce sont les Polonais. Ensuite, il y a eu... toute une vague, alors là, c'est les Maghrébins, plus particulièrement le sud marocain, l'Algérie, la Turquie, et entre deux, il y a quand même eu l'Espagne et le Portugal. Alors, pour aller où et pour faire quoi? Essentiellement dans les mines, dans un premier temps, et ensuite, sidérurgie, construction navale, grosses œuvres telles le centrale nucléaire de Gravelines. Voilà comment ça s'est distribué. Ils ne sont pas venus dans notre région, en tout cas ceux qui ont travaillé, et c'est le plus gros contingent dans les mines, parce que c'est eux qui se sont redéployés ensuite. Ils ne sont pas venus dans notre région. On est allé les chercher pour les amener travailler là où il y avait du travail, en l'occurrence dans les mines, puisque si on prend le cas des travailleurs marocains, eh bien on a été recrutés sur place, tout simplement.
Et alors, comment ça s'est passé pour eux quand ils sont arrivés justement ici, dans la région des Hauts-de-France?
Comment ça s'est passé pour eux? Ben, ça s'est passé... Alors, je vais vous donner un exemple. C'est la construction de la centrale nucléaire de Gravelines qui donc, s'est faite dans le début des années 70 avec... Alors, le gros œuvre a été fait par des Marocains, des Algériens et des Turcs. Donc, vous aviez tout simplement des cantonnements autour du chantier et les travailleurs migrants étaient logés dans ces cantonnements à 3 ou 4 par chambre et ne faisaient que travailler en fait pendant toute la durée du chantier.
D'abord, il y a eu plusieurs vagues, des vagues jusque les années 30. Après, bien sûr, 36 est arrivé, il y a eu vraiment des retours au pays. Hein. Après, le chômage est arrivé en France aussi. Hein.
Philippe Buniowski, président et fondateur de Polonia Vicoigne.
Il y a eu notamment les mineurs de Westphalie, d'Allemagne, où le chômage commençait à monter et puis donc les recruteurs sont allés par là avoir du personnel déjà formé, alors que les mineurs qui venaient de Pologne n'étaient pas formés, puisqu'essentiellement déjà pauvres et puis issus de l'agriculture. À Rennes, il y a eu plusieurs vagues, hein, et c'était surtout pour Vicoigne et puis pour Sabatier, aussi pour Lagrange. Là, il y avait une cité où pratiquement il n'y avait que des Polonais, très peu de Français.
Et alors, en quoi ces vagues d'immigration ont bouleversé notre culture régionale?
Je ne crois pas qu'elle l'ait bouleversée, parce que si elle l'avait vraiment bouleversée, on aurait un conseil régional qui serait métissé. On aurait des représentants un peu plus visibles de ces personnes qui restent encore des minorités, malheureusement.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté à notre culture régionale?
Les grands chantiers, s'il n'y avait pas eu cette force de travail, ces grands chantiers n'auraient pas pu se faire, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ce qui continue à être le cas aujourd'hui, hein, avec les migrants économiques qui nous viennent des pays de l'Est sur les énormes chantiers. Ils ont surtout apporté leur force de travail. Ensuite, ils ont apporté leur famille, parce que pour une partie d'entre eux, une fois le chantier terminé, le deuxième chantier terminé, on fait souche. Donc on se pose et puis on envisage de ramener la famille qui jusqu'à présent était restée, qui au Maroc, qui en Algérie, qui en Turquie.
Parlons France.
Le magazine mensuel de la France.
La Fédération des radios associatives du Nord de la France.
C'était Monique Van Lacker, secrétaire générale du CEFIR, Centre d'éducation et de formation interculturelle Rencontre, au micro de Agathe Doisy de RPL.
Alors la région Hauts-de-France est au cœur de l'Europe, entre la Belgique et l'Angleterre. Omar Yagoubi, hein, vous êtes compositeur et pianiste. D'autres régions sont également frontalières et elles ont aussi été touchées par ces vagues migratoires. Alors on peut citer comme par exemple la Champagne-Ardenne. Alors avec votre métier de musicien, vous avez donc beaucoup de voyagé. Et quel constat avez-vous pu faire dans ces autres régions ?
En tant que musicien, j'ai beaucoup de chance, puisque la musique est, avec les mathématiques, un langage universel. Donc, je n'ai pas de constat à faire sur des prétendus soucis. Quand on dit vague migratoire, il y a toujours un côté un peu agressif, une vague, une grosse vague, voire un tsunami. Non, une goutte d'eau contribue à la grandeur de l'océan. Nous sommes l'océan, et l'océan, par nature, n'a pas de frontières. Donc moi, je ne le vois pas du tout comme vous. Je vois nos territoires, notamment les Hauts-de-France que je connais bien, comme une partie d'un grand océan qui s'appelle la planète. Et ça, Thomas Pesquet pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, parce qu'il faut du recul, il faut beaucoup de recul. Donc je le vois comme chaque individu contribue à sa manière à la grandeur de la région qu'il occupe. Mais pareil, l'occupation, ça fait encore un petit peu quasi militaire. Donc on a vraiment un vrai souci avec le vocabulaire. De mon point de vue de musicien, je travaille quand même dans un monde vraiment magique, magnifique, puisque quand je vais au Japon, je n'ai pas besoin de parler japonais, la musique parle pour moi. Quand je suis en Belgique, côté flamand, ils ne veulent absolument pas parler français, c'est pareil. La musique, un accord de Do majeur restera toujours un accord de Do majeur. Donc encore une fois, une goutte d'eau contribue à la grandeur de l'océan, c'est pourquoi je dis que ces gens qui sont visiblement bien, bien renseignés, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est une histoire d'angle de vue.
Et justement, quand vous arrivez et on vous demande tout de suite vos origines ou vous présentez en tant que compositeur?
Oui, c'est de manière récurrente, on se demande d'où ça vient, Omar Yagoubi, avec la tête que j'ai. Et du coup, j'ai toujours un malin plaisir à parler de ma famille polonaise. Ça, c'est clair. Je suis un peu obligé de surévaluer, surrevendiquer mon appartenance également à une espèce de, comment dire, slavitude, c'est très laid, mais enfin bref, l'âme slave, du reste, au tout cas, on va jouer l'âme de l'Est bientôt. Donc c'est juste pour rétablir l'équilibre, puisque ni dans mon nom, ni dans mon visage, on peut connaître mon parcours. Mais j'aime à croire que la musique parle pour moi.
Après cette première partie de notre magazine Parlons Franf consacrée aux cultures en région, voici une pause musicale avec HK, Citoyen du Monde.
Et si ta part te suffit pas, tu en prendras d'autres sans avoir à te battre. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour eux. Combien au chaud la victoire est champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Thank you. paysans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.
Parlons Franf.
C'était
la radio autrement.
Vous êtes toujours dans le magazine Parlons Franf avec Omar Yagoubi, compositeur et pianiste français, invité de ce 21e numéro consacré aux cultures en région. En 2014, une nouvelle mesure a été adoptée par l'Assemblée nationale. Les immigrés de plus de 65 ans qui vivent en France depuis moins de 25 ans, depuis au moins 25 ans, et qui ont eu un ou plusieurs enfants nés en France, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration. Omar Yagoubi, vos grands-parents ont-ils été naturalisé?
Oui, bien entendu. Bien entendu. Alors mon grand-père, parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale, et parce qu'il, dès les années 20, il était déjà un axe économique très très important, une espèce de vecteur entre l'arrivée massive des Polonais, des Maghrébins, des Tchèques, des Russes, tout ça pour la reconstruction, il était déjà important. On lui a donné en 1934, mais la réalité, c'est que mon père, mon propre père, qui est décédé en 2011, moi j'ai retrouvé son acte de naissance indigène. Et c'est juste en 1900, si mes souvenirs sont bons, dans les années 50, et mon oncle qui est toujours vivant et mon père ont pu se faire obtenir la nationalité française. Et nonobstant le fait que ça a été un peu compliqué en 62, à la guerre d'Algérie, où là, on leur a en plus demandé de choisir entre la nationalité algérienne et française. De fait, mon père étant ingénieur en plus à Paris, hein, il a eu son diplôme en 56, il n'y avait aucune raison qu'ils n'optent pas pour une nationalité française pleine et entière. Mais ce n'était pas donné, elle a été gagnée. Ce qui est quand même assez incroyable quand on sait qu'un tiers de la richesse de la France est dû à l'empire colonial, où on a pillé allègrement le Maghreb, l'Afrique, le Tonkin. Ça faut peut-être rappeler aux gens qui nous écoutent que un bon tiers de la richesse française a été plus ou moins... On ne peut pas dire volé, mais quasi, par la bourgeoisie de l'époque. Mais c'était vrai aussi pour les Anglais, c'était vrai aussi pour le Portugal, c'était vrai pour l'Espagne, hein, c'était depuis le 15e siècle. Je suis toujours surpris, moi, dans la jeunesse, et même les gens de ma génération, à quel point les gens ne sont pas curieux. Alors même qu'on a des outils technologiques extraordinaires, notamment Wikipédia, où on a des banques de mémoire extraordinaires, mais on n'a pas la curiosité d'aller voir. Donc quand on se pose la question de la problématique de l'immigration, des problèmes et des conséquences, faut aller voir d'où ça vient. La France, géographiquement, c'est le derrière de l'Europe. Une fois qu'on a envahi la France, on va où ? Il y a les plus grandes côtes européennes sont les côtes françaises. Donc tous ceux qui ont envahi depuis 2000 ans, se sont arrêtés ici. Donc le mythe du Gaulois est fort sympathique quand on veut vendre des albums d'Astérix, mais ça en reste là. C'est vraiment un mythe. Oui, le Gaulois a certainement existé, mais de toute façon, lui-même était déjà mélangé avec les Italiens, qui étaient eux-mêmes mélangés avec les Espagnols, donc avec les Arabes. Enfin bref, tout ça est une douce plaisanterie. En même temps, non, pour certains, apparemment, c'est sérieux. Enfin, je tenais à rétablir quand même une certaine vérité.
Qu'est-ce que cette naturalisation représente pour vos parents, vos grands-parents aujourd'hui ?
Oh, certainement...
Un mérite, une récompense, une reconnaissance ?
En ce qui concerne mon grand-père, c'est sûr que c'était vraiment une affaire de reconnaissance. En ce qui concerne mon père, paix à son âme et à mon oncle, qui est toujours vivant, ça représente... pas exactement la même chose. Le premier acte qu'a fait mon grand-père pour mon oncle et mon père en 1937 et en 1938, ça a été des baptisés catholiques, par exemple. Mais c'était pas une affaire de religion, c'était une histoire de protection.
Justement, On va parler de vos créations. Vos créations sont donc sont des compositions de la culture de vos pays d'origine. Ou est-ce qu'il s'agit d'une création artistique d'un enfant, d'un Français enfant d'immigré?
J'ose croire que c'est effectivement un syncrétisme. Un syncrétisme, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est un mélange de doctrines, une fusion de doctrines. Je déteste le mot doctrine, puisque une doctrine, c'est quelque chose que vous énoncez qui n'a pas besoin d'être prouvé, comme Dieu, par exemple. Bon, on pose ça, mais on n'a pas besoin de le prouver. C'est une croyance, quoi. Ils savent qu'ils croient, ils ne croient pas qu'ils savent, enfin bref. Et pour moi, mes œuvres, c'est une, comme en cuisine, en réalité, une fusion, ma fusion à moi, personnelle, qui fait d'ailleurs mon succès, parce qu'elle est réellement très personnelle pour le coup, qui fait de moi un individu rayonnant, ce qu'il y a de meilleur, je fais ce que je peux, quoi, en lui. Mais je pense que tous les artistes font ça.
Depuis les années 80, l'attention portée aux cultures de l'immigration se révèle être un outil supplémentaire à notre compréhension de l'histoire de l'immigration. Direction Roubaix, une ville qui a toujours mis un point d'honneur à accueillir des populations venues de tous les horizons. À travers des événements festifs ou des structures consultatives comme le CRIC, Carrefour Ressources Interculturelles, elle tente de créer des conditions optimales pour que cette diversité soit synonyme de richesse. On écoute Idir Haddadi, porte-parole du CRIC à Roubaix et de l'association Mémoire Plurielle, dont la mission principale est d'élaborer et permettre des échanges interculturels.
Les premières générations d'immigration, je peux dire que j'en fais partie. Bon, je suis né en 1950, donc en 1961, j'avais 11 ans. Ben, mon frère a décidé, du jour au lendemain, on est arrivé là-bas, il a vu mes parents en me disant, ben voilà, c'est encore la guerre en Algérie. Et donc je suis arrivé ici en 1961 à Roubaix. Donc voilà un peu la première émigration. Et cette première génération d'émigration, je parle en règle générale de celle que je connais bien, parce qu'il y en a que je connais moins bien, c'est qu'il y a même un vieux chanteur qui s'appelle Slimane Azem, un vieux chanteur qui chantait comme ça pour l'émigration. Et qui disait dans une de ses premières chansons, généralement les gens comme lui, qui venait ici en France, c'était pour une année ou deux, se faire un peu d'argent et repartir rejoindre leur famille. Et puis par la suite aussi, à partir, je pense dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène du regroupement familial, où les hommes, au lieu de repartir là-bas, en Algérie ou en Afrique, ils faisaient venir leur famille, donc forcément les familles avec les enfants sont nés ici. Donc ensuite, perte totale d'identité. Perte totale de repères. Ils ne sont pas français. Ici, ils sont considérés comme des Arabes, des étrangers, des musulmans, des terroristes. Enfin, on met le terme qu'on veut. Et là-bas, quand ils vont dans leur pays d'origine, ils ne sont pas considérés comme ni Marocains, ni Algériens, ni rien du tout. Voilà, une chose est sûre, c'est qu'il ne faudra jamais, jamais oublier, devoir de mémoire, c'est que les anciens, nos anciens, que ce soit mes parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde, qui viennent de n'importe où, ils font partie des gens qui ont bâti la France. C'est-à-dire, c'était le travail, l'usine et puis la maison, quoi, voilà, il n'y avait rien d'autre, de temps en temps. Tous ces anciens, nos anciens, parents, grands-parents, illettrés, pour la plupart, eh bien, quand on les voyait le dimanche, mon vieux, costume, cravate blanche, gominé, rasé de près, mais c'était formidable. Mais une chose est sûre, c'est que la culture, en règle générale, tous les arts, que ce soit la musique, la danse, c'est ici, de l'émigration, c'est vraiment une richesse phénoménale. On le voit à la télévision, les chanteurs, les nouveaux chanteurs qui arrivent, et puis voilà quoi. Donc tout ça, c'est vrai que c'est une richesse. Et moi, j'ai tendance à croire que maintenant, justement, les jeunes entre eux, ils s'en foutent de ce qui s'est passé auparavant, ce qui s'est passé avec l'Allemagne, quand on voit bien la guerre qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu, les conflits avec l'Allemagne, et maintenant, ce sont les deux meilleurs. Donc, moi, je pense que maintenant, avec le temps, on voit plein de couples mixtes, des jeunes, sans aucun problème, quoi. Après, ça a aussi ses limites. Mais le problème, moi, ce qui me dérange, et ça me dérange énormément, c'est qu'on voit beaucoup plus de gens maintenant qui sont otages de la religion. Ça, c'est dommage. C'est vraiment mon plus grand regret. Au lieu d'aller faire que ça, que d'aller tout le temps à la mosquée, ce qui n'est pas en soi-même un défaut d'aller à la mosquée. Mais les jeunes pourraient aussi aller dans des lieux justement artistiques, aller voir des spectacles, aller voir... c'est surtout ça, quoi. S'ouvrir un peu.
Parlons France.
Le magazine mensuel de la France.
La Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Vous venez d'entendre Idir Haddadi, porte-parole du CRIC à Roubaix et membre fondateur de l'association Mémoire Plurielle. Omar Yagoubi, la culture de l'immigration se développe-t-elle et s'épanouit-elle suffisamment dans notre région? Et quels sont d'après vous les attraits et les limites de l'interculturalité?
En tout cas, ce que je sais, c'est que ça donne une pêche extraordinaire chez les acteurs culturels que j'ai pu rencontrer, à Roubaix, à Tourcoing, à Lille, à Paris, même en Ariège, j'ai vu des clans de Marocains, Toulouse, enfin partout où je vais. De toute façon, on est toujours l'immigré quelqu'un, vous voyez. Mais ça donne une pêche extraordinaire, puisque ben, on a à prouver quelque part, un peu plus que les autres, et à montrer qui sa manière de cuisiner, qui sa manière de croire d'ailleurs, qui sa manière de jouer de la musique, de peindre. Donc ces gens ont vraiment beaucoup d'énergie. Ils ne sont pas englués dans un quotidien. Et en ça, moi, je les encourage à continuer.
Et d'après vous, quelles sont les limites de l'interculturalité ?
À mon avis, il n'y a pas vraiment de limites contractuelles. Les limites qu'on nous donne, ce sont les limites de la loi, au fond. Il peut y avoir des spectacles dérangeants, il peut y avoir des choses extrêmement dérangeantes. Là, on parle beaucoup de mosquées où il se dirait des choses, mais il y a aussi, chez les catholiques, des églises intégristes où on dit des choses un petit peu bizarres. Bon, ça, la loi prévoit, soit sur le plan... je crois que c'est comme si on essayait de donner une limite à l'amour.
Omar Yagoubi, vous êtes compositeur, pianiste. Que représente pour vous la musique ?
Ah, c'est une vaste question, Joris. Ouais. C'est une vaste question. Pour faire simple, la musique est un phénomène ondulatoire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'univers est ondulatoire. Tout est onde, courbe. Donc la musique, c'est un peu comme le vent, on peut le sentir, on ne peut pas le toucher. Hein, le vent, on ne peut pas le toucher, d'accord, mais on peut le sentir. La musique, c'est la même chose. On ne peut pas la toucher, mais on peut la ressentir. Donc moi, ma vocation, si je puis dire, là j'ai beaucoup de chance, c'est dans cette immense mer ondulatoire de sensations, de couleurs, d'odeurs, d'amour et donc de haine, puisque les deux sont... tout est mélangé, c'est de braquer un projecteur bienveillant pour permettre, mais alors vraiment très humblement, à ceux qui ont la gentillesse d'écouter ma musique, de juste passer un bon moment d'ouverture, que ça leur ouvre des portes d'une maison qui était peut-être un peu trop fermée.
Ça symbolise votre histoire, cette musique ?
Ah oui, oui, oui. Mais moi, c'est quasiment une psychanalyse sauvage, la musique. C'était ma manière, quand dès 7 ans, j'ai su que c'était la musique. Pourquoi ? Parce que quand on est né en 57 à Lens, dans les conditions où je suis né, la solution, ce que je disais au départ de l'émission, toute enfantine, moi, je n'ai pas tué l'enfant qui est en moi. J'ai 60 ans, mais je n'ai pas tué l'enfant qui est en moi. Et si je crois beaucoup en la solution... dans les solutions très simples qu'apportent les enfants, et j'en suis toujours à mon âge à ça.
Omar Yagoubi, faisons à présent une seconde pause musicale avec la valse de la Sensée, l'une de vos compositions dans l'émission Parlons Franf.
Thank you.
Parlons France.
La radio autrement.
Omar Yagoubi à l'honneur dans ce nouveau numéro de notre Parlons France consacré aux cultures en région. Joris Nassens de Radio Club à Ramberg.
Et on a entendu une de vos compositions, la valse de la Sensée. Comment a été composée cette musique, cette valse ?
Donc cette valse est une musique emblématique pour les chemins de mémoire 14-18, qui a été choisie par le conseil régional Nord-Pas-de-Calais à l'époque, maintenant c'est le conseil des Hauts-de-France. Toutes mes musiques sont autobiographiques de toute façon. J'en vois vraiment aucune, même la musique de commande, que ce soit en cinéma, en télé, en radio, en orchestre philharmonique, toutes mes musiques sont autobiographiques et je défie beaucoup de créateurs d'ailleurs à oser me dire qu'ils ne mettent pas une part de leur vie. C'est-à-dire en clair, ce que je suis en train de vivre avec vous, la jeunesse, la belle jeunesse de maintenant, me donne de l'énergie et je vais la raconter d'une manière ou d'une autre plus tard. Voilà. Et en ce qui concerne la valse de la Sensée, eh bien, j'ai la chance de posséder, pas non plus ce terme-là, d'habiter une maison qui est aux sources d'une rivière magnifique qui s'appelle la Sensée. Et donc j'ai eu dans mon parc l'idée de ce thème initial, mais ça m'est venu dans le parc, et je me suis précipité à mon piano, et de là à ma partition vierge, et qui n'est pas restée très très longtemps. Et puis au départ, c'était d'ailleurs pas prévu que ce soit pour les chemins de mémoire 14-18, c'est juste qu'elle est tellement nostalgique qu'elle a plu aux gens qui avaient en charge le dossier des chemins de mémoire 14-18.
Alors si on prend l'exemple de cette valse de la Sensée, est-ce qu'on peut dire que, pensez-vous que la culture, la musique pour vous, le cinéma, les expositions, participent à cette histoire, à cette mémoire de l'immigration ?
Non seulement elle participe à la mémoire, mais elle est aussi le remède au supposé problème que ça peut poser. Il y a deux choses qu'il faut bien se mettre dans la tête. C'est d'une part l'éducation, en tout premier lieu, l'éducation, et l'éducation nationale chapeau en France, et la culture. Cette ouverture qu'elle permet sur la vie des autres, sur la culture des autres. S'il n'y a pas des vecteurs actifs que sont les compositeurs, les peintres, les acteurs, s'il n'y a pas des gens pour vous raconter tout ça, vous ne pourriez pas le savoir. Ou alors, il faudrait voyager beaucoup. Alors, je vous encourage aussi à voyager, bien entendu. Mais d'abord, l'éducation. Et on a vraiment un outil des plus performants au monde qui s'appelle l'éducation nationale, c'est tout simple. Et la culture, et maintenant, en 2017, je m'avance d'une année, par rapport à mon époque, c'est quand même une époque bénie des dieux. Juste, il faut être curieux.
Du coup, cette musique, c'est une sorte de témoignage pour passer aux générations.
Oui.
Suivante.
Oui, moi je passe depuis la mort de mon maître Aldo Ciccolini, je suis juste à l'âge, et d'autres avec moi, on est là pour passer un témoin, oui, à vous autres, on est là effectivement pour non seulement témoigner, mais créer avec vous, avec la jeunesse, ce que je fais par exemple au Conservatoire d'Arras, où je suis en résidence sur le thème du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc il y a quand même 700 élèves, il y a 39 professeurs autour de moi dans le cadre de cette résidence. Là, j'ai clairement un message de passage de témoin.
Donc vous allez dans des écoles, dans des résidences, non ?
Non, je suis basé au Conservatoire d'Arras, où là, je crée une partition qui s'appelle l'Adieu aux armes, qui fait travailler l'ensemble du conservatoire. On aura donc l'occasion d'entendre cette œuvre-là, si mes souvenirs sont bons, le 15 avril au Casino d'Arras 2018.
Alors, l'immigration polonaise a été marquée dans le Valencinois aussi pour les mines. Après la guerre 14-18, aujourd'hui, à Rzemwicz-Kłań, près de Saint-Amand-les-Eaux, une association perdure la tradition polonaise en organisant des messes et des bals polonais. Polonia Wicłań est fondée et présidée par Philippe Bionowski. Eh bien, ce passionné d'histoire et auteur revient sur l'arrivée des Polonais dans le Hainaut. Témoignage.
parce qu'ils sont arrivés, avec leur culture, avec leurs recettes, avec leur façon de cultiver le jardin qui n'était pas tout à fait identique à celle des Français. Hein. Un jardin polonais a beaucoup de pommes de terre, beaucoup plus de fleurs, pas de tomates, moins de laitue, une façon de travailler qui était différente quand même. La musique, ils sont venus avec leur drapeau, leur étendard d'association polonaise, leur musique bien propre à eux. Il y a eu des frictions, l'intégration n'était pas facile. Mais après, une fois que la barrière a été passée, bah écoutez, je pense que les Français les ont accueillis et puis ils ont échangé. Et puis, bah, je pense que 50-60 ans après, bah, ça a fait cette population un petit peu Nord-Pas-de-Calais qu'on connaît aujourd'hui, conviviale, sympathique. Un atout économique, oui, beaucoup, parce que on disait le essentiellement, c'était donc des mineurs, et on disait bah, le mineur polonais, bah, il est venu relever la France, puisque c'était quand même dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, toute cette main-d'œuvre, toute cette production de charbon qui a fait quand même progresser la France, hein, qui a fait quand même un bond en avant hein, après les misères de la guerre.
Cette immigration qui a été en faveur du coup de notre région au niveau économique aussi avec les commerçants qui ont ouvert aussi leurs portes aux Français après.
Oh, je pense que c'était difficile. Ouvrir sa porte aux Français, c'était difficile quand même, je pense. Enfin, ça s'est vu après avec l'immigration italienne aussi, hein, c'était peut-être moins important, mais avec toutes les immigrations, je pense, hein, il y a eu quand même une période où on se regarde en chien de faïence, on essaie de se connaître après, mais ça devait pas être évident.
Là, od kraju, od wielu już lat.
Il n'y a plus de distance aujourd'hui quand même, l'immigration polonaise c'était 1922, donc ça fait quand même plus de 90 ans. On va, d'ailleurs nous à Vicogne on a fêté les 80 ans puis les 90 ans de l'immigration polonaise. Bientôt dans quelques années on va préparer déjà le centième anniversaire de l'immigration polonaise. Alors oui aujourd'hui, oui de cette épopée, bah, la musique est restée quand même parce que on a peut-être oublié les petits groupes locaux de musique polonaise des années 50. Hein, genre Iskra, les Mandolin Club, Soir de Médabskon, ça fait partie aussi d'une autre époque. Mais la musique de Monsieur Kubiak, par exemple. Monsieur Kubiak, on en parle toujours aujourd'hui et c'est bien ancré dans la région. Puis alors, aujourd'hui, ce qui m'étonne toujours, c'est quand il y a un mariage, même typiquement français et purement français, ce qui m'étonne, c'est qu'on, bien souvent, on trouve du plat de sec. C'est quand même une trace, quand même quelque part, un reste de l'immigration polonaise. Ça doit faire plaisir à nos anciens.
Parlons Franf.
La radio autrement.
Philippe Bunowski, président fondateur de l'association Polonia Vicogne. Omar Yagoubi, vous êtes notre invité pour ce Parlons Franf. Vous êtes donc compositeur et pianiste. Vous dites, je cite, « Mes mains sont slaves, mes jambes sont sémites, ma tête est française, quant à mon cœur, il est déjà pris. » C'est une belle citation. C'est une citation qui reflète votre histoire, votre parcours.
Oui, j'étais inspiré. J'étais inspiré parce que j'ai une forme de, et dans ma musique et dans ma manière d'être, enfin ce que les gens peuvent remarquer, me dire, c'est une certaine forme d'universalité, forcément, puisque je peux pas, vous comprenez bien que dans ma situation, je ne peux pas choisir entre un père arabe, une mère polonaise et ma culture complètement française. Donc forcément, j'ai un côté universel que je revendique, mais je veux dire que c'est naturel chez moi.
Et comment garder ce côté universel? Comment garder aussi une mémoire de l'immigration dans l'histoire de notre région, selon votre point de vue, bien sûr?
Le problème n'est pas tant la mémoire, j'ai une énorme mémoire, c'est juste de savoir ce qu'on en fait. c'est juste avoir une curiosité. À quoi ça me sert de savoir d'où vient ma grand-mère polonaise et mon grand-père algérien, alors que même j'habite en France. L'important pour moi, c'est de digérer sensuellement, au sens du terme du sens, que ça peut donner dans mes œuvres, ici et maintenant, en France. C'est pas une analyse qu'il faut faire, hein, c'est plutôt une synthèse. Et ma synthèse, je la fais pas en permanence en musique, comme d'autres peuvent la faire par le théâtre ou par des bébés.
Aujourd'hui, à plus d'un an après la fusion des régions, Omar Yagoubi, peut-on parler d'une nouvelle forme d'immigration ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'intégration ?
Non, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ça reste un mélange. L'Europe, le monde est un immense mélange. Et puis, dans 1000 ans, on en reparlera. Vous serez certainement là, je pense, Patricia. Mais tout le monde est amené à se mélanger. Mais ça, c'est depuis le début de l'humanité. Donc pour moi, il n'y a pas d'intégration. Il y a juste des hommes et des femmes qui rayonnent, on espère ce qu'il y a de meilleur en eux, dans un territoire donné, à un moment donné. Maintenant, la problématique politique, c'est-à-dire les conditions d'accueil, je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire, il n'y a qu'à voir justement à caler comment ça se passe, quoi.
Vous pensez que la culture des populations de l'immigration, la culture de l'immigration, est-ce que la culture de l'immigration est suffisamment intégrée dans le corps public, c'est-à-dire dans les médias, dans les arts, dans le patrimoine régional ?
Pas encore, mais la prise de conscience est notable. Par rapport à mon époque, la prise en compte du fait des cultures étrangères qui arrivent dans un lieu donné, qui se trouve être le Hauts-de-France, et de plus en plus prise en considération. Et c'est déjà une avancée. Mais c'est un peu comme un bateau, si vous préférez. C'est un énorme bateau, un énorme paquebot. Pour faire avancer, il va avancer de plus en plus vite, d'accord, mais lentement. Vous voyez, pareil pour freiner, d'ailleurs.
Alors, vous nous parliez de Calais il y a quelques secondes. Avec l'afflux de nouveaux migrants dans la région, est-ce que vous pensez que l'histoire se répète ? Est-ce qu'on peut comparer les migrations d'hier à celles d'aujourd'hui ?
Il y a des paramètres qui sont les mêmes, mais malheureusement, force est de constater que l'histoire éternue tout le temps. Mais elle éternue de plus en plus fort, là, parce qu'il y a aussi le changement climatique. Il ne faut pas oublier, et ça on le zappe souvent, cette problématique-là, notamment à Calais, parce que c'est vraiment criant, c'est pas que des réfugiés de guerre, et encore moins des réfugiés économiques. La migration économique, il y en a de moins en moins en réalité sur des réfugiés de guerre, mais il y a également la problématique climatique. Et ça, dans 50 ans, on sera évidemment encore là pour en parler, je rêve. C'est un paramètre qu'il faut intégrer tout de suite.
Qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la Franf, la fédération des radios associatives du nord de la France.
Avec nous, Omar Yagoubi, pianiste et compositeur français, dans le cadre du magazine Parlons Franf numéro 21, consacré aux cultures en région. Omar Yagoubi, le mot de la fin.
Alors moi j'aurais souhaité dire à un maximum de gens ce qui me guide moi, après les autres je ne sais pas, mais ce qui me guide moi c'est que mon existence ne se réduit pas à mes origines, mon existence ne se réduit pas à ma nationalité, de même ma vie n'est pas une annexe de mon travail, quant à ma religion elle est tellement secrète qu'elle n'a pas d'identité du tout. Je voudrais mettre en garde tout le monde, vraiment de manière forte sur les phénomènes d'appartenance. Les phénomènes d'appartenance, ils engendrent forcément des phénomènes d'apartheid quand vous appartenez à un groupe. Moi, j'ai un côté vraiment universel. C'est pourquoi je n'ai jamais considéré que mon existence se réduisait à mes origines.
Merci à vous Omar Yagoubi pour votre participation à ce magazine Parlons France sur les cultures en région. À la coordination de ce magazine, Agathe Doisy de RPL à Lambersart.
Avec la participation de Patricia Bassama de Radio Campus à Lille.
Joris Nincès de Radio Club à Wallers à Ramberg.
Et à la technique Hervé du Jardin de Radio Scarpe Sensé. Bon été à tous et à bientôt.
À bientôt.